Ok, bah merci beaucoup d'être là et d'être aussi nombreux pour cette table ronde sur les interfaces machine-cerveau. C'est une table ronde qui est tout à fait dans l'esprit des utopiales, au moins tel que je le comprends. C'est-à-dire que c'est sur un sujet qui visiblement, sinon fait rêver, en tout cas intéresse beaucoup de gens, qui est clairement à l'interface entre la science-fiction et la science. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un panel restreint, mais tout à fait représentatif de ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si c'est encore la peine de présenter Alain Damasio, qui est quelqu'un qui est extrêmement bien connu dans le milieu, qui est l'auteur de plusieurs romans qui ont fait beaucoup de bruit, comme La Horde du Contrevent, que beaucoup d'entre vous ont sans doute lu, comme La Zone du Dehors, qui est aussi, c'est un peu moins connu, peut-être scénariste. En particulier, je crois que tu es directement impliqué dans le jeu vidéo qui est présenté à l'entrée des Utopiales, dont le nom est Remember Me, pour autant que je me souvienne.
Oui, Remember Me, on en parlera ce soir, parce qu'il y a une soirée qui est consacrée à ça. Et j'ai simplement, voilà, j'ai assuré la direction narrative de cet univers pendant 3 ans avant de passer la main à Stéphane Beauverger, qui est lui-même écrivain de science-fiction et qui a scénarisé derrière.
Donc un écrivain passionné par la technique, mais passionné aussi par les problèmes que ça pose à l'humanité. Ces textes sont souvent centrés sur l'homme, sur la société, sur les conséquences des avancées techniques pour l'homme, souvent métaphorisées, parfois de façon plus directe. Donc un pur auteur de science-fiction, et à ses côtés un pur scientifique, si j'ose dire, donc Karim Gerbi, qui est chercheur en neurosciences cognitives, donc en plein sur notre sujet évidemment, dans le laboratoire de l'INSERM à Lyon. Je ne sais pas si ça vaut la peine de rentrer plus de détails dans les biographies, vous n'êtes pas vraiment là pour ça, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Les interfaces cerveau-machine, c'est un sujet qu'on pourrait aborder sous un angle purement technique et purement futuriste. Je suis tenté de commencer par rappeler qu'en fait c'est une vieille question. La question de l'outil est quasiment aussi vieille que l'humanité. Le contrôle d'un outil est quelque chose qui est une question qui s'est posée depuis toujours. Tous les artisans, tous les musiciens, chacun d'entre vous sait bien que un outil devient vraiment efficace à partir du moment où il devient une extension de nous-mêmes. Un musicien devient bon à partir du moment où il ne pense plus à ce qu'il doit jouer ou ne pense plus à son instrument comme un objet extérieur qu'il faut contrôler, mais où ça devient tellement naturel qu'il peut penser à sa musique, penser à son art. Il en va de même d'un peintre, il en va de même bien sûr d'un n'importe quel conducteur de voiture. C'est bien qu'il commence à bien conduire au moment où il n'a plus besoin de penser aux différentes commandes de sa machine. Donc on a des outils, on a un rapport aux outils qui est relativement ancien. On a un rapport à la transmission d'informations, transmission de pensées qui est aussi quasiment aussi ancien. Je pense que la question de transmettre nos idées, transmettre nos compétences à d'autres, s'est posée depuis toujours. Et là encore, l'humanité est devenue ce qu'elle est à partir du moment où elle a été capable d'inventer des moyens de transmission de pensées, au premier rang desquels probablement le livre. Fondamentalement, le livre n'est rien d'autre qu'une façon de poser sa pensée sur un support durable et de le transmettre à d'autres intelligences qui peuvent commencer à bâtir dessus. Donc ma première question, probablement, sera simplement de demander si le fait de passer par une interface moins traditionnelle que celle que qu'on peut imaginer pour passer l'information du cerveau à la machine est une simple évolution, un progrès depuis cette maîtrise de l'outil de plus en plus sophistiqué qu'on connaît depuis des siècles, ou si on a une véritable solution de continuité, et si le fait d'avoir le moyen aujourd'hui d'aller prélever directement des informations dans le cerveau pour contrôler la machine change complètement la nature du problème. Karim, tu peux nous faire un point sur ce genre de choses?
Je vais essayer. C'est une question difficile, alors je pense que c'est peut-être utile de rappeler d'abord une définition toute simple d'une interface cerveau-machine, ça peut être intéressant. L'interface cerveau-machine, comme on l'étudie, comme on l'utilise dans les laboratoires de recherche aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les interfaces cerveau-machine sont passées du domaine purement de la science-fiction à vraiment à la science. Donc on a vraiment des interfaces cerveau-machine qui existent, qui sont utiles à différents niveaux, à la fois pour les approches cliniques, mais aussi pour aussi travailler certains aspects de la cognition humaine. Et donc c'est des travaux réels qui existent aujourd'hui et qui ont vu un progrès incroyable sur les 10 dernières années facilement, et sur les 5 dernières années encore plus. Donc c'est vraiment un domaine émergent. Alors la définition d'une interface cerveau-machine, c'est c'est la capacité de commander un dispositif externe à partir de l'activité cérébrale purement. Donc l'idée, c'est de court-circuiter l'activité musculaire et de passer directement à un contrôle via l'activité cérébrale. Alors certains vont appeler ça la pensée. La notion de pensée, elle est intéressante à discuter, de débattre le lien entre activité cérébrale et pensée. On pourra peut-être y revenir plus tard. Mais l'idée, c'est de partir de l'activité cérébrale telle qu'on est en mesure de l'enregistrer aujourd'hui. Ça sous-entend par exemple l'électroencéphalographie avec des mesures d'électrodes sur l'activité du cerveau au niveau du scalp. Ensuite, cette activité-là, elle est traduite, on parle de l'algorithme de traduction ou de décodage qui vont classifier l'activité cérébrale pour identifier la nature de l'activité et ce qu'elle représente, qui ensuite va être passé à un ordinateur qui lui va contrôler un dispositif externe qui peut être par exemple un bras robotisé qui va bouger en fonction de l'intention de la personne ou qui peut être aussi un curseur sur un écran qui va se balader à droite et à gauche en fonction de la volonté du sujet. Et on parle aussi dans les interfaces cerveau-machine de dispositifs qui sont closed loop ou open loop, donc c'est des boucles fermées et boucles ouvertes. Les boucles ouvertes sont des boucles où vous avez une activité cérébrale qui est mesurée, qui est traduite donc dans une activité qui est comprise par un ordinateur qui est transmise à un dispositif externe. Mais la boucle fermée, et c'est là où ça devient plus intéressant, c'est que le changement qui peut avoir lieu au niveau de l'écran, par exemple, ou du mouvement d'un bras robotisé, va être perçu par le sujet lui-même. Donc il voit l'effet de ce qu'il fait et ça va lui permettre d'ajuster l'activité de son propre cerveau pour améliorer ou perfectionner la sortie de cette interface cerveau-machine. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une boucle fermée, parce qu'il y a un apprentissage qui se fait au niveau de la machine qui va apprendre à mieux décoder l'intention de la personne, mais aussi un apprentissage qui se fait au niveau du sujet, qui apprend à mieux utiliser la machine, à appréhender la façon dont la machine va traduire l'activité de son cerveau. Et voilà, donc ça c'était juste pour un petit rappel de ce que nous on entend par interface cerveau-machine. Alors il y en a d'autres, hein, et d'autres approches de ça, mais ça c'est vraiment la définition classique. Je vous ai peut-être par exemple pas parlé de la stimulation électrique. Donc ça aussi c'est une sorte d'interface parce qu'on va interagir entre cerveau et machine, mais là c'est la machine qui va stimuler le cerveau. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de revenir à ça, mais pour la définition classique, ça va partir de ça, une intention par un être humain capté par des électrodes qui va aller ensuite changer quelque chose sur un écran, ou alors bouger un bras robotisé, ou alors une chaise roulante, ou alors une machine qui permet de communiquer avec autrui. Alors pour revenir à la question, c'était plutôt de voir l'évolution et si c'est une évolution naturelle par rapport à... C'était bien ça là.
Ou de voir s'il y a véritablement un saut technologique. Est-ce qu'on a un changement de paradigme avec l'apparition de ces nouvelles techniques, ou est-ce que c'est simplement un approfondissement des démarches plus anciennes?
Je pense que le saut ou le saut de paradigme, le shift de paradigme qui peut exister vient du fait qu'aujourd'hui, on maîtrise mieux le décodage des intentions motrices, on maîtrise mieux les outils qui vont nous permettre d'avoir une représentation fiable d'une intention d'une personne à travers l'activité de son cerveau. Le saut vient aussi du fait que maintenant, on est capable avec diverses méthodes. Donc avant, on s'intéressait beaucoup plus à l'EEG de scalp. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'EEG de scalp, mais aussi à l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, pour aussi faire des interfaces cerveau-machine et ce qu'on appelle le neurofeedback, mais aussi des enregistrements intracérébraux. Alors, ça se fait aussi chez l'humain dans des cas très très précis, dans certaines pathologies, mais notamment avec des expériences chez l'animal. Et c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui, je peux vous donner quelques exemples d'études récentes qui montrent vraiment qu'on est arrivé vraiment loin par rapport à où est-ce qu'on était il y a une dizaine d'années. Il y a une étude, par exemple, en 2008, par l'équipe du chercheur Miguel Nicolelis à l'université de Duke, aux États-Unis, en Caroline du Nord, qui a pu montrer qu'ils ont appris un singe donc, à marcher. Ils ont enregistré l'activité cérébrale du singe pendant qu'il était en train de marcher. Et ils ont utilisé cette activité-là, le décodeur qui en sortait de cette interface cerveau-machine où ils prenaient l'activité. Ils ont enregistré en temps réel l'activité du cerveau du singe avec des électrodes implantées à même le cerveau, de transmettre cette information-là via Internet à un robot. Alors le singe, il faisait 5,5 kg et 80 cm de haut. Et ça a permis de contrôler le déplacement. Donc aussi un robot humanoïde au Japon, à Kyoto, qui faisait lui 1,50 m et qui devait peser une centaine de kilos, et qui commençait à marcher via l'activité cérébrale du singe qui était lui aux États-Unis. Et ce qui était le plus fascinant là-dedans, c'est que cet apprentissage, je parlais tout à l'heure de boucle fermée, le singe, il voyait l'arrière du robot en temps réel, donc il voyait les pieds du robot qui était lui à Kyoto en train de marcher. Et à un moment donné, les chercheurs ont arrêté le tapis roulant sur lequel marchait le singe, ce qui fait que le singe ne marchait plus. Et vu que le singe, lui, recevait une récompense à chaque fois que ça se passait bien, ils ont vite vu que le singe, très rapidement, s'est mis à continuer à contrôler le robot, même sans marcher lui-même. Donc, ce n'est pas juste l'activité du fait que le singe marchait, qu'on reprenait ça. Le singe a appris, après à peu près une heure et demie, à produire l'activité cérébrale qu'il fallait pour que la machine qui décodait l'information et la transmettait via Internet à un robot humanoïde au Japon pouvait permettre de continuer à ce robot, enfin permettre à ce robot-là de continuer à marcher. Et du coup, lui, il continue à avoir une récompense. Et ça, c'est un exemple aussi qui montre qu'on apprend aujourd'hui à aller au-delà de juste prendre l'activité cérébrale telle qu'elle est pour l'appliquer à une interface cerveau-machine, mais on est vraiment capable de faire apprendre à une personne, et en l'occurrence, c'était un animal, à produire l'activité cérébrale qu'il faut pour appréhender la machine et faire la machine ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez intéressant. Alors, j'ai d'autres exemples, mais je ne veux pas accaparer la discussion. D'accord.
Oui, je vais m'adresser maintenant à Alain. Karim nous parlait de réalisation de l'état de l'art et des réalisations récentes. Ouais. Est-ce que c'est dans ce genre de choses que tu puisses ton inspiration quand tu vas traiter ce genre de sujet, ou est-ce que tu pars sur des spéculations un peu plus lointaines? Est-ce que tu t'intéresses à ce qu'on saura faire un jour?
Oui, moi ça me... C'est clair que toute innovation technologique de ce type-là, surtout quand elle touche pour moi des enjeux vraiment anthropotechniques, c'est-à-dire que ça va modifier, ce type d'invention va modifier la façon dont l'être humain va vivre son rapport à soi, va vivre son rapport à l'autre, va vivre son rapport au monde. Donc chaque fois qu'une innovation technologique touche cet aspect-là, moi ça m'intéresse parce qu'on est dans la construction de l'humain ou dans la reconstruction de l'humain. Comment l'humain va se construire avec ces nouvelles techniques? Moi, ce qui me frappe là sur l'interface cerveau-machine, j'aime bien ta question de début parce que je me dis, oui, est-ce que ça vient à l'aboutissement, notamment dans l'interface homme-machine, ou est-ce qu'on est vraiment sur un saut de paradigme? Moi, je crois qu'il y a effectivement une espèce de continuité de lignée, c'est-à-dire que si on prend l'interfaçage homme-machine, on a eu les interfaces classiques, souris, clavier, etc. On a ensuite passé un stade supérieur en pouvant piloter des machines, un clavier, etc. par la voix. Puis on a été encore plus loin, je parle du grand public, hein. On a inventé Kinect, donc le système qui permet uniquement par la gestuelle de piloter une interface et même de jouer. Et puis on se dit, le stade suivant, les gens ont dit, enlevons l'interface et pilotons tout directement par la pensée. Donc c'est espèce de rêve quoi, d'arriver à un contrôle direct. Donc là-dessus, oui, il y a une évolution. Et il y a une deuxième évolution que je trouve intéressante, c'est que moi, ce que je suis depuis pas mal d'années maintenant, depuis la zone du dehors en tout cas, c'est l'évolution des capteurs, en tout cas des types de machines ou de technologies qui sont là pour capter une information sur nous, de notre plein gré ou à notre insu. Et ça, c'est un exercice de pouvoir extrêmement intéressant parce que ces informations capturées permettent ensuite effectivement de faire des statistiques, de contrôler les gens, de faire du profiling, etc. Et là, dans cette série-là d'inventions de capteurs ou de captures de données ou de traces, on arrive effectivement à un stade terminal. Moi, sur les capteurs, par exemple, pour vous dire tout ce qui existe, et ça me frappe à chaque fois, j'aime bien citer cette liste parce qu'elle est pour moi forte. On a des capteurs de mouvement, on a des capteurs de bruit, on a des capteurs aujourd'hui liés vraiment à l'activité, je dirais, de santé, c'est-à-dire des capteurs de température corporelle, de pression artérielle, de sudation. On a même inventé des chiottes maintenant qui permettent d'analyser le pipi et le caca, et ils imaginent au Japon éventuellement les mettre en fonction pour qu'on sache à peu près si les gens ont des hépatites ou des problèmes particuliers. On a des nez électroniques, on a des capteurs de rythme de la démarche, on a des capteurs de poids, etc. On a des systèmes de géolocalisation, bien sûr, qui savent à chaque moment où on est, etc. On a des caméras intelligentes, on a de la biométrie. Bon. Et quand on regarde ce que ça permet de capturer, on se dit, bon, on peut capter le son, on peut capter le goût, on peut capter l'odeur, on peut capter évidemment la vue, on peut capter la chaleur, on peut capter le mouvement, on peut capter les formes avec la biométrie. Et puis, étape ultime, et c'est normal que ça arrive et c'est normal qu'on le développe dans les dernières années, le plus intime, le plus secret, le plus enfermé, le plus a priori incaptable, c'est-à-dire la pensée, mais pas réellement la pensée, en tout cas l'activité cérébrale, les ondes cérébrales. Donc oui, on est dans une continuité, c'est pas un hasard que ça arrive. Mais la différence, pour moi, elle est massive au sens où là, on accède au plus protégé de l'espèce humaine, au plus intime de l'espèce humaine. Voilà. Et on arrive à extraire une information de quelque chose qu'on peut, a priori, assez peu contrôler. Je pense aux fameuses ondes là, que vous appelez P300, je crois, ou ces ondes qui sont, moi je trouve super intéressantes, aux ondes, où c'est des ondes automatiques que génère le cerveau quand il reconnaît quelque chose. Si vous présentez un objet que vous avez déjà vu, le cerveau génère cette onde particulière qui est de 300 millisecondes, je crois. Enfin, si vous dites des conneries, vous me dites ça, vous me le dites. Et on sait reconnaître, capter et interpréter ce signal. On sait que la personne vient de reconnaître quelque chose qu'elle a déjà vu. Donc vous imaginez l'utilisation possible en détecteur de mensonges, par exemple reconnaître un visage, un lieu, un objet, etc. Donc ce type de choses, voilà, ça soulève effectivement des problèmes massifs. On va en parler plus longuement. Mais en tout cas, oui, pour moi, il y a une lignée. Il y a une lignée sur l'interface homme-machine et il y a une lignée sur la capture d'une information à l'insu des gens ou du plein gré des gens. Ouais.
Peut-être revenir sur le technicien. Alain nous parlait à l'instant de capteurs qui permettaient d'accéder à des choses relativement intimes. Mais l'intimité, a priori, c'est la nature de ce qu'on cherche à mesurer qui va faire que c'est intime ou non. Tu parlais, toi, de pensée ou de processus cérébraux complexes. Est-ce que la différence n'est pas plutôt au niveau effectivement, de la complexité des phénomènes? On se représente le cerveau en général comme une machine horriblement compliquée, avec un nombre colossal de neurones, qui a un nombre de liaisons possibles encore plus colossal. Tu nous parlais de boucle ouverte avec un ordinateur derrière. Est-ce qu'une limite de ce genre de choses, ça va être la puissance de calcul de l'ordinateur, au-delà des capteurs, à supposer qu'on ait réussi à capter et à mesurer l'état du cerveau? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'avoir des ordinateurs capables de se donner un modèle de ce cerveau et d'interpréter ce qui se passe dans toute sa complexité? Ou est-ce qu'on est encore complètement à la traîne du point de vue de la puissance de modélisation et de calcul?
Alors, c'est une question importante que vous soulevez, de la capacité de calcul des machines, pour voir si elles peuvent tenir tête aussi à nos cerveaux qui eux sont d'une très grande puissance et d'une très grande complexité. Je pense que pour les vraies interfaces cerveau-machine qu'on fait tourner aujourd'hui, qui existent déjà, pas celles du futur, on n'est pas encore limité par la puissance de calcul des ordinateurs ou des machines. Par contre, c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait aujourd'hui dans la communauté scientifique pour mieux modéliser le cerveau, pour essayer de modéliser quasiment là, au neurone près un cerveau humain, donc avec toute sa complexité. Ces modèles-là n'existent pas encore, ils ne sont pas encore prédictifs de l'activité cérébrale, donc elles ne sont pas encore fiables comme modèles. Mais le jour où elles existeront, elles nécessitent beaucoup de calculs. Et si on veut coupler ensuite un tel modèle aussi complexe du cerveau avec une interface cerveau-machine pour faire le lien, là, on sera amené à avoir des supercomputing qui tournent à plein fouet pour pouvoir... en temps réel, suivre et décoder les intentions du cerveau. Mais ça m'amène aussi à un autre point qui est très important que vous soulevez aussi dans votre question, c'est le lien entre décodage et encodage. Alors, en gros, je m'explique, c'est si on veut mieux décoder l'intention d'une personne, la vision simpliste qu'on a souvent, c'est de dire on lit dans les pensées des personnes avec les interfaces cerveau-machine. Alors, c'est pas exactement ça, on n'est pas en train de lire dans les pensées, parce que ça sous-entend que toute pensée peut-être quelque chose qu'on capte avec nos électrodes et nos moyens d'enregistrement et qu'on pourra comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est un peu plus, malheureusement, c'est un peu moins rigolo et moins proche de la science-fiction, c'est que ça fonctionne sur une base de, on pourrait comparer ça à un dictionnaire. Donc, en gros, vous avez ce que vous savez encoder, vous serez en mesure de décoder. Donc, si vous savez ce que fait le cerveau quand le cerveau veut préparer un mouvement de la main droite par rapport au mouvement de la main gauche, si vous savez à quoi ressemble cette activité cérébrale, le moment où elle sera émise par le cerveau, là, vous allez pouvoir décoder. Tiens, cette personne-là voudrait bouger sa main droite ou sa main gauche. Donc, il y a cette notion de dictionnaire et cette notion de lien entre encodage et décodage. Et donc, ça aussi fait que les interfaces cerveau-machine avancent avec les avancées neuroscientifiques. Donc, notre amélioration de la compréhension fondamentale du fonctionnement du cerveau vont améliorer nos interfaces cerveau-machine. Donc, on fonctionne moins, je dirais, comme une boîte noire. Ce n'est pas juste en entrée et en sortie, on essaie de deviner ce qui s'est passé à l'intérieur. On essaie aussi, et ça c'est notre travail à nous, les neuroscientifiques, de mieux comprendre les mécanismes, et puis surtout les mécanismes, la dynamique cérébrale et la dynamique des réseaux, donc les réseaux de neurones dans le cerveau, la communication entre régions cérébrales notamment. Quand on arrive à mieux comprendre ça et mieux le caractériser, on sera mieux en mesure de savoir comment faire pour l'enregistrer, et encore plus en temps réel, pour pouvoir ensuite décoder l'état du sujet ou du patient s'il s'agit d'une condition clinique.
Avec toutes les limites et les risques d'un exercice de prospective, est-ce que vous pourriez nous donner un ordre de grandeur du terme auquel vous attendriez un modèle opératoire du cerveau, au sens où vous le définirez? Est-ce qu'on parle de 5 ans, de 10 ans, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on verra dans 50 ans, ou un jour peut-être, dans les siècles à venir?
Alors, la réponse va... je pense être très différente en fonction de à qui vous la posez, cette question-là. Il y a certaines personnes qui font partie d'un consortium européen qui a obtenu un grand, grand financement. Ils ont promis quelque chose de la sorte pour les 10 prochaines années. Nous sommes d'autres chercheurs à penser que ça va prendre beaucoup plus de temps si c'est jouable du tout. Moi, je suis très sceptique par rapport à ça, mais je pense que ce n'est pas une raison pour ne pas le faire, parce qu'en faisant ça, en essayant de modéliser le cerveau en détail, on va mieux le comprendre. Et au passage, ça va nous permettre d'avoir des informations qui seront utiles pour la clinique, pour guérir certaines maladies. Donc, c'est un effort qui, à mon avis, est important et doit être fait. Est-ce qu'on va arriver à élucider, en termes de modèle computationnel et une modélisation du cerveau complexe, d'avoir une représentation fidèle et d'arriver à ce que vous dites, une compréhension de ça? Je ne pense pas nécessairement que ce soit un but vraiment qu'on veut obtenir. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'évolution de ces interfaces cerveau-machine et qu'est-ce qu'on peut s'attendre demain dans ces interfaces cerveau-machine. Et je vois aujourd'hui une tendance qui est assez intéressante, c'est de faire le lien entre interface cerveau-machine et micro-stimulation. Donc non seulement on va enregistrer l'activité du cerveau, mais on va voir si aussi en stimulant le cerveau dans cette boucle-là, on va pouvoir améliorer ces interfaces cerveau-machine. Un exemple de ça, c'est de donner un retour sensoriel. Par exemple, une personne qui ne peut pas utiliser ses membres, donc un tétraplégique ou un paraplégique, c'est d'avoir donné, à la fois décoder l'activité du cerveau pour bouger un bras robotisé, mais aussi utiliser un retour sensoriel de ce bras robotisé qui s'injecterait directement dans le cortex sensitif, sensorimoteur de la personne. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. On parle aujourd'hui, là je vous parle d'une étude 2013, donc c'est vraiment très très récent, encore dans l'équipe de Nicole Ellis, et là c'était en collaboration avec le Brésil. Nicole Ellis est un chercheur brésilien d'origine qui travaille aux États-Unis, et là aussi ils ont fait un tour de force en montrant un proof of concept, ils ont montré la faisabilité de la chose. Là on parle non plus de ICM, interface cerveau-machine, mais on parle de ICC, c'est interface cerveau-cerveau. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont connecté deux cerveaux directement l'un à l'autre. Alors, il ne s'agit pas de cerveau humain pour l'instant, c'est deux rats ou deux souris, une qui était dans Caroline du Nord, donc à Durham, à Duke University, et l'autre à Natal au Brésil. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait faire une tâche à une première souris qui était de pousser un bouton en fonction d'une petite lumière qui s'allume, alors une lumière jaune ou une lumière rouge. Et donc la souris effectuait cette tâche-là. L'activité de son cerveau était directement transmise à l'autre souris qui se trouvait, elle, au Brésil, et qui, pour recevoir une récompense, devait aussi appuyer sur le bon bouton, sauf qu'elle n'avait pas l'information de la lumière. Donc, elle n'avait aucune façon de savoir quel était le bon bouton, mais elle faisait uniquement confiance à l'information qui venait de l'autre souris, qui était directement injectée dans son cerveau. Donc, c'est là l'interface entre cerveau d'une souris aux US et une souris au Brésil, et qui mettent aussi en place une sorte de coopération entre deux cerveaux pour atteindre un but commun. Et le but commun, il est renforcé par une petite astuce qu'ils ont rajoutée. Les chercheurs, ils ont fait en sorte que si la réponse de la deuxième souris est fausse, si la réponse de la deuxième souris est bonne, la première souris recevait une récompense additionnelle. Donc elle avait intérêt à ce que le signal qu'elle émit de son cerveau soit le plus décodable possible et utile pour la deuxième souris. Donc ça, c'est aussi un proof of concept, parce que ça montre la capacité, la possibilité de faire travailler ensemble deux cerveaux. Et donc les chercheurs à l'origine de l'étude se posent aussi la question de voir dans le futur qu'est-ce qui se passerait si on est capable de connecter le cerveau d'une population d'animaux. Est-ce qu'on va pouvoir faire émerger une certaine intelligence collective pour arriver à un but commun, on espère positif, qui va au-delà de ce que chaque souris ou chaque cerveau en individuel est capable de faire. Donc ça c'est une évolution aussi qui peut être très intéressante pour le futur.
Alors... Ouais, moi j'avoue que ça me fait un peu hurler ce genre de choses, parce que on est vraiment, enfin, c'est malheureusement beaucoup comme ça ces dernières années, enfin depuis 10 ou 20 ans, je trouve, sur l'arrivée des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la fascination, quoi. C'est-à-dire qu'on nous raconte des choses, quand j'écoute ce que dit Karim, c'est ok, c'est absolument fascinant de se dire qu'un cerveau interconnecté à un autre cerveau de rat peut lui faire faire des choses. Mais moi, je suis désolé, je suis plutôt du domaine des sciences molles, et je me pose surtout la question de ok, à quoi ça sert, où on va, quelle conception de l'animal et de l'homme on a derrière tout ça. Et surtout, quel champ de désir est à l'œuvre quand on travaille sur ce type de technologie. Moi, c'est toujours la première question que je me pose. Quand j'ai eu ce sujet en me disant « Ok, Alain, tu vas venir en table ronde sur l'interface cerveau-machine », c'est vrai que c'est un domaine que je suivais, et je démarre toujours de la même façon. C'est-à-dire, je me dis « Quel est le champ de désir derrière ?» Deleuze disait « Quelle est l'économie de désir qui fonctionne derrière cette envie de créer des interfaces cerveau-machine ou derrière cette envie, comme vous le racontez, de réussir à interconnecter deux cerveaux pour que l'un... subissent la stimulation neuronale de l'autre. Moi, je crois qu'il y a deux premières choses, et c'est important de comprendre ça et de sentir ça, parce que ça détermine après l'utilisation qu'on va faire de ces technologies, à mon sens, hein, en tout cas, c'est ma conviction. La première chose, c'est que pour moi, il y a une sorte de pulsion, Dieu, j'appelle ça, de pulsion Dieu ou de pulsion de toute puissance. C'est-à-dire qu'on est là, on se dit, c'est extraordinaire, avec ma simple pensée, je vais réussir à faire faire à une machine quelque chose. Avec ma, tu sais, c'est je pense, donc le monde suit. Quoi. Voilà. Donc, cette intuition de se dire, c'est extraordinaire, je peux agir sur la matière directement par le cerveau. Ça, c'est un champ de désir très fort sur l'espèce humaine, qui est très ancien, qui est dans beaucoup de mythes, et c'est des mythes généralement divins. Le deuxième, c'est, j'appelle ça moi le rêve enfantin, la pensée magique, c'est ce côté absolument fascinant. Je pense qu'on a tous, quand on écoute Karim, quand moi je lis les textes sur l'interface cerveau-machine, je suis tout autant fasciné que vous, parce qu'en plus j'adore la SF, c'est l'idée de dire, bon ben voilà, je peux agir à distance, il y a de la vitesse lumière, c'est presque de la fantaisie, j'ai plus besoin de corps pour agir, c'est génial, je pense, et les choses se font, et il y a ce côté super, super sympa, super cool, super enfantin, de se dire, waouh, j'agis à distance et c'est fabuleux. Et puis il y a le côté scientifique, il y a le plaisir du scientifique. C'est-à-dire le scientifique, il est face à un outil extraordinairement complexe qui est le fonctionnement du cerveau et des groupes de neurones. Et par rapport à ça, il arrive à décoder des ondes, il arrive à quantifier, il arrive à réifier des choses qui sont extraordinairement compliquées. Et ça, je pense qu'il y a un vrai plaisir en tant que chercheur à faire ça. Je comprends qu'on en fasse son métier, je comprends qu'on adore et soit passionné par ce type de métier-là, parce qu'effectivement, aller prospecter le fonctionnement d'un cerveau et essayer de réussir progressivement à repérer sur quoi fonctionne une intention de mouvement, par exemple, sur quoi fonctionne la reconnaissance d'un objet, etc., et de le repérer en tant qu'activité cérébrale, oui, c'est extraordinaire, oui, c'est fascinant d'un point de vue purement scientifique. Mais pour aller où et pour faire quoi? Voilà. Donc pour moi, c'est deux grandes choses. On déifie, on réifie, en gros, c'est le champ de désir qu'il y a derrière l'interface cerveau-machine. Il y a certainement d'autres, mais c'est deux grosses choses qui sont... Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, on nous amène toujours les choses de la même façon, ça c'est systématique aussi. On nous met l'handicapé au premier plan. C'est-à-dire que l'handicapé est généralement la motivation ou l'alibi fondamental de ce type de recherche. Là, c'était quoi? C'était résoudre la maladie de Parkinson, réussir à soigner la maladie d'Alzheimer, réussir à ce qu'un tétraplégique réussisse à faire avancer son fauteuil roulant, etc. Et contre ça, évidemment, vous ne pouvez rien dire. Quoi. C'est hyper louable, c'est hyper généreux, et on est heureux que ça puisse effectivement être mis en place. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ce n'est pas simplement le gouvernement qui finance ces éléments de recherche, et ce n'est pas uniquement pour soigner les handicapés. Les handicapés, c'est comme c'est les arbres qui cachent la forêt, c'est les grands hêtres qu'on met au début, et puis derrière, il y a plein de petits buissons et il y a plein d'autres arbres. Et ces autres arbres, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que les autres pouvoirs vont pouvoir utiliser ou accaparer de ces technologies-là. Notamment, le pouvoir classique aujourd'hui, c'est les multinationales, c'est le capitaliste consumériste. Et qu'est-ce qu'il veut, le capitaliste consumériste? Il veut déterminer qu'est-ce qui provoque un acte d'achat, par exemple. Ou qu'est-ce qu'il veut choisir aussi, c'est est-ce que vous reconnaissez un produit qui vous a martelé pendant une année entière à la radio ou en publicité visuelle? Et donc, si vous arrivez sur l'affiche et que votre cerveau émet cette fameuse onde P300 qui signifie que vous avez reconnu l'objet, lui, il a une validation de l'efficacité de sa campagne publicitaire. Par exemple, c'est un exemple, mais il y en a des centaines d'autres. Et ils ont fait un essai, moi j'avais vu ça dans un reportage, ils ont mis une personne dans un IRM, une femme en l'occurrence, et ils lui faisaient passer des sacs à main, comme ça. Elle ne les avait jamais vus, ces sacs à main, d'accord? Et ils la font sortir de l'IRM et lui disent, le sac que vous avez préféré dans la série de sacs qu'on vous a montré, c'est le sac rouge, là, qui est en 14e position. Et la nana, elle le regarde, elle dit, ouais, c'est vrai. Et pourquoi? Comment ils le savent? Alors c'est très simple, c'est très basique, on décode pas la pensée, hein, c'est évidemment qu'on décode pas la pensée. On décode une activité cérébrale, on se rend compte que le cerveau, quand il aime quelque chose, il dépense plus d'énergie, plus d'oxygène, et on peut mesurer cette dépense d'oxygène, et donc on peut mesurer que le volume, j'ai envie de dire, d'activité cérébrale était plus important sur ce sac, donc que ce sac plaisait à cette nana. Vous voyez? Donc on a ce type de choses qui est en cours. Alors vous allez me dire, oui mais c'est des technologies hyper intrusives, on est dans un IRM, on peut pas le faire... genre dans la vie quotidienne, etc. Mais pousser un peu plus loin aujourd'hui, on commence à avoir des casques externes qui commencent à être un peu plus puissants. Bon, Karim n'a pas expliqué ça, mais c'est vrai que c'est très compliqué de décoller une onde cérébrale parce qu'il y a la dure mère, il y a les os de la boîte crânienne, ça déforme l'onde. C'est compliqué. Et quand vous faites un système non-invasif, c'est-à-dire un système à électrode extérieure, c'est super balèze d'arriver à interpréter correctement l'onde. Pour bien interpréter, il faut commencer à mettre des électrodes apparemment dans la boîte crânienne. Bon, mais imaginez... Tous les moments où vous avez un casque sur la tête, par exemple votre casque quand vous écoutez de la musique, par exemple quand vous faites de la moto ou du scooter, par exemple que vous êtes sur un chantier puis vous avez aussi un casque, etc. Imaginez que ces casques-là intègrent un élément comme ça d'électrode et tout, puis vous êtes en train de vous balader en scooter et vous regardez des publicités. Ben, rien n'empêche, à partir du moment où ce casque peut capter vos ondes cérébrales, de voir à terme que... Ah ben oui, tiens, ça, cette pub, vous l'avez reconnue, c'est bien. Et hop, on prélève la donnée. Ça, c'est ça que vous l'aimez. Ah, c'est bien, on prélève la donnée, etc. Bien sûr, vous le ferez de votre poulain gris, c'est le fameux opt-in. Vous choisissez de donner cette information sortie de votre cerveau parce que vous avez une commodité, une facilité, une application derrière. Mais voilà, ça ouvre tous ces champs-là. Voilà. Et moi, je suis très pour qu'on soigne les handicapés, je suis très pour qu'on essaye de soigner Alzheimer. Mais derrière, je me pose foncièrement la question de l'utilisation que va être fait par d'autres pouvoirs de ces technologies-là et des potentialités de ces technologies. On parlait du singe aussi. On peut décoder l'intention du mouvement du singe. Et même, on peut, ils disent, vraiment dans ce que j'ai lu, qu'on pourrait altérer l'intention de mouvement de quelqu'un, donc d'un singe. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire avec ça ? Vous voulez agir, vous voulez marcher, vous voulez vous déplacer, vous voulez lancer quelque chose ? On peut modifier ou altérer ce signal-là directement dans votre cerveau ? Ça fait réfléchir. Donc on est sur un mode, une modalité de pouvoir, une modalité de préhension sur l'être humain qui est extrêmement forte, qui est extrêmement dangereuse, qui est extrêmement périlleuse et qu'on nous amène avec les meilleures intentions du monde comme toujours, avec les meilleurs arguments du monde comme toujours, avec les meilleurs alibis du monde comme toujours, les handicapés, les malades, les vieux. Mais essayons d'aller au-delà de ça, quoi, et essayons de se poser les questions que ça indique. Moi, à partir du moment où un système peut prélever à mon insu une information que je n'ai pas envie de lui donner, que ça soit ma géolocalisation, que ça soit le site internet que je visite, que ça soit la durée que je passe sur tel site, que ça soit mon nombre de pensées, eh ben, je considère que c'est une prise de pouvoir sur moi-même et c'est une atteinte directe à ma liberté. Voilà. Donc moi, je considère que la boîte crânienne devrait être un sanctuaire. C'est le dernier coffre-fort un peu de l'intimité qui nous reste. On nous a déjà pris notre mouvement, notre biométrie, notre monde numérique, où pas un geste, pas un mouvement, pas une action qu'on fait dans le monde numérique et virtuel n'est pas tracée. Tout est tracé, tout est traçable, tout est numérisable, tout est archivable, tout est stockable, tout est data minable, analysable, etc. On le sait maintenant, on a vu NSA, j'espère que vous suivez ce qui se passe avec le système américain. Donc, à partir du moment où on prélève à la source une information à votre insu, il peut se passer des choses que les pouvoirs peuvent récupérer. Donc ça pose, et moi j'aimerais bien savoir justement sur Karim Gerbi, qui bon, évidemment travaille sur ce domaine, comment il voit ça sur ces domaines de la manipulation potentielle. Parce que vous parlez aussi du fait que les systèmes sont réversibles, c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, pour comprendre comment marche le cerveau, il faut effectivement lire les ondes que le cerveau génère, mais aussi quand on le stimule, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a la réversibilité. Et si on peut stimuler, comme c'est rare qu'on stimule à distance à travers des ondes électriques, on est quand même dans un exercice de pouvoir hallucinant, non ?
Oui, alors je suis tout à fait d'accord, et c'est un domaine d'ailleurs qui existe depuis plusieurs années maintenant, qu'on appelle la neuroéthique, qui s'intéresse vraiment à ça. C'est des questions qui se posent. C'est pas, on n'est pas encore dépassé par ce qu'on peut faire par rapport aux dangers que ça peut amener. Ces questions-là sont vraiment des questions d'actualité et qu'on se pose souvent dans ces recherches-là, et puis aussi dans la communauté scientifique qui s'intéresse aux interfaces cerveau-machine, qu'elles soient pour une application clinique ou pour d'autres types d'applications, par exemple le domaine des jeux vidéo. Ça, c'est un domaine qui s'intéresse, l'industrie des jeux vidéo s'intéresse beaucoup aujourd'hui à l'utilisation de capteurs comme le casque émotif qui va prendre l'activité cérébrale et essayer de l'injecter dans le jeu pour rendre le jeu dépendant de votre état cérébral. Donc c'est des questions, la neuroéthique se pose ces questions-là depuis longtemps. La question, ce n'est pas jusqu'où aller dans ces interfaces cerveau-machine, mais c'est vraiment aller dans quelle direction. C'est vraiment orienter les choix qu'on peut faire et faire aussi que la législation et les lois suivent d'une certaine façon. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles entre ces risques qu'on peut voir émerger des interfaces cerveau-machine et puis tout autre type de technologie. Je parle même d'Internet, parce que, comme vous avez dit à l'instant, quand vous surfez sur Internet ou vous êtes sur Facebook, il y a plein d'informations de vous qui sont obtenus, qui sont aussi transmis à d'autres partenaires. Et la question aussi, c'est de là, ce qui est moins clair pour moi, c'est la limite en ce que vous appelez tout à l'heure le côté sacral de la boîte crânienne, ce qui est le dernier endroit où on a peut-être, c'est un lieu intime, on n'a pas accès, et le reste, parce que la frontière, elle est quand même floue. Quand vous baladez sur Internet, ce que vous faites quand même, il est lié aussi à votre cerveau, à vos choix, à vos décisions. Donc, il y a déjà des informations sur notre cerveau, sur nos désirs, sur les choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas, qui sont transférées. Après, il y a aussi la complexité du cerveau qui fait qu'il suffit... Alors, c'était un joli exemple que vous avez donné par rapport à l'IRM, où on voit le sac rouge qui attire plus l'attention. Mais c'est vrai que le cerveau, il n'a pas encore livré tous ses secrets. On sait aussi que, par exemple, l'activité cérébrale peut augmenter lorsque vous voyez quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Donc, un sentiment de dégoût, il y a la structure comme l'amygdale, par exemple, qui va s'activer quand il y a quelque chose qui vous dégoûte. Donc, il faut vraiment mieux comprendre le cerveau pour comprendre les structures dont l'activité augmente ou baisse en fonction d'une sensation positive, sensation négative. En plus, ce n'est pas que des régions dont l'activité augmente ou baisse, c'est des réseaux qui interagissent. Donc aujourd'hui, ça c'est aussi un des domaines de spécialité dans notre laboratoire à Lyon. On s'intéresse à la communication cérébrale, de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne en réseau. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce réseau-là, j'expliquais ça hier à un collègue, n'est pas uniquement un réseau qui fonctionne quand vous êtes dans une tâche active, mais même au repos, l'activité spontanée du cerveau est organisée en réseau. Et cette organisation en réseau, il y a aujourd'hui des groupes de recherche qui s'intéressent à essayer de quantifier ce réseau qui existe au repos, on va appeler ça le réseau par défaut, comme signature cérébrale. Donc là, vous avez comme les signatures de... Comme vos empreintes digitales sur une main, là vous avez peut-être une signature du cerveau, vous mettez quelqu'un dans une machine 5 minutes et vous lui demandez de rien faire, absolument juste rester dans un état de repos pendant 5 minutes. Vous avez un snapshot de son activité cérébrale, alors plutôt qu'un snapshot, c'est vraiment quelque chose de dynamique, vous allez voir dans le temps comment ça évolue et vous allez regarder son réseau. Ça, c'est une représentation du cerveau de cette personne-là et il y a probablement des informations qui sont uniques à chaque personne dans l'activité de son cerveau. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles il faut se poser aussi des questions. Il y a pas mal de gens qui sont réticents à donner leur empreinte digitale. De la même façon, vous pouvez dire « Non, je ne veux pas qu'on regarde l'activité de notre cerveau. » Donc pour revenir à la neuroéthique, je pense que c'est des questions fondamentales, mais c'est des questions que les chercheurs se posent déjà. Une différence énorme entre le cerveau et le reste de notre corps, c'est que c'est vrai que, comme vous le dites, on a cette impression de sacralité et d'intimité. Donc aujourd'hui, l'opinion publique va s'élever beaucoup plus contre cette intrusion dans le cerveau que contre l'intrusion dans d'autres aspects qui peut-être parfois, au final, ne seront pas beaucoup plus intrusifs que ça parce que voilà, vos déplacements, vous parlez de géolocalisation. Il y a aujourd'hui dans les métros parisiens, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait tout un procès qui a été fait au fait qu'on peut suivre les mouvements des yeux des personnes qui regardaient les publicités. Ça aussi, c'est quelque chose. On n'a pas demandé l'avis aux consommateurs, on n'a pas demandé aux voyageurs de la RATP s'ils étaient d'accord pour qu'on puisse suivre les mouvements de leurs yeux sur un panneau publicitaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez important et voire même grave parce que nous, dans nos laboratoires, quand on veut faire des expériences avec des sujets, on leur propose l'expérience, on leur fait signer une feuille fiche de consentement. Et même en amont de ça, on a besoin d'un sort d'accord de commission d'éthique pour pouvoir faire ce type de recherche. Donc tout ça est bien contrôlé. Alors que si vous vous baladez dans le métro et que votre activité, des mouvements de vos yeux, donc vos saccades oculaires sont enregistrés sur un système et personne ne vous a demandé votre avis, ça veut dire que ça devient plus difficile de faire des manipulations, des expérimentations dans un laboratoire que dans la vraie vie en dehors. Et en plus, nous, c'est dans un but scientifique. Globalement, alors que ceux qui vont mesurer vos activités oculaires dans le métro, c'est un but purement commercial et de marketing. Donc le neuromarketing, c'est une thématique qui aujourd'hui soulève des vrais problèmes, mais elle le soulève de même façon à ce qu'elle soulève sur d'autres technologies qui ne sont pas uniquement liées au cerveau, à mon sens.
Peut-être une dernière question avant de donner la parole à la salle, parce que c'est un sujet qui visiblement passionne et j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. Mais Alain, tu nous livrais une analyse d'ordre moral et politique en tant qu'intellectuel et en tant que citoyen. Mais en tant qu'écrivain de science-fiction, comment envisages-tu ce genre de choses ? Est-ce que la science-fiction en particulier est une voie d'expression militante pour approfondir cette analyse ? Est-ce que c'est un moyen de faire des expériences de pensée pour te projeter un peu plus dans le futur ?
Oui, mais complètement. Enfin, pour moi, la science-fiction, j'ai toujours pensé comme ça et depuis le début où j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que pour moi, la science-fiction, elle a un rôle majeur aujourd'hui. Voilà. Moi, quand je vois tout le monde qui est ici et que je vois que les utopiales amènent de plus en plus de monde, je me dis, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que ce qui se passe au présent aujourd'hui dans notre monde est énormément lié et corrélé aux technologies dans lesquelles on évolue. Voilà. On est dans un monde technologie, dans une technologie monde, et ce monde-là nous entoure, nous construit, nous reconstruit, nous élabore, et on grandit à travers ça, on mûrit à travers ça, et on a un rapport aux autres et à soi qui est construit par ce rapport technologique. Donc la science-fiction ayant vocation pour moi à être précurseur dans ces domaines-là, à analyser précisément et à essayer d'anticiper précisément ce qui se passe sur l'arrivée des technologies comme ça émergentes, comme l'interface cerveau-machine, on a un rôle fondamental parce qu'on doit mettre en récit, on doit mettre en perspective, on doit créer des fonctions d'alerte, on doit mettre en affect, on doit mettre en sentiment, en émotion, en histoire, ce qui est en train de se passer. C'est quand si je vous dis l'interface cerveau-machine, oulala, c'est dangereux en levant la main, etc., vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ? Regardez, ça soigne Parkinson, ça soigne Alzheimer, c'est quand même bien et tout. Mais si je vous le mets dans un récit, que je construis une histoire, un rapport entre les personnages, que je vois un personnage évoluer, se transformer, se métaboliser à partir de cette technologie, là, vous allez ressentir de l'intérieur, vous allez vivre de l'intérieur ce qui peut se passer. et ce qui peut se passer au niveau individuel, mais ce qui peut se passer surtout au niveau collectif. Donc, on a un rôle essentiel de mise en imaginaire de ces éléments-là, quoi. Et moi, oui, quand je vois ça et qu'on parle de ça, c'est fabuleux. Enfin, je veux dire, l'interface cerveau-machine, c'est là, j'ai 40 histoires possibles à partir de rien que ce qu'on a dit aujourd'hui, quoi. Il y a des choses vraiment absolument démentes, soit pour critiquer le neuromarketing. Enfin, moi, dans mon prochain roman, par exemple, j'ai juste un individu qui traverse une ville et il traverse tous les capteurs possibles et potentiels fondés sur le marketing et le neuromarketing qui sont imaginables. Et si vous vivez, vous lisez ce paragraphe, vous lisez ce chapitre. Ben ça y est, vous avez la ville 2.0, la fameuse ville Ubimédia avec l'informatique pervasive qui est devant vos yeux, vous le ressentez et vous allez peut-être comprendre ce qui se passe et peut-être du coup ça va faire appel à votre citoyenneté, à votre responsabilité et vous allez arrêter de se dire bon ben ça on regarde pas, c'est un travail scientifique fait par des gens dans des laboratoires, vous allez commencer à faire pression sur les gouvernements, vous allez commencer peut-être à développer des contre-pouvoirs ou des contre-dispositifs de hacking, de sabotage, vous allez si vous travaillez dans ces industries-là peut-être avoir le courage de devenir lanceur d'alerte ou dénonciateur comme l'a fait Snowden, par exemple, pour la NSA, c'est-à-dire de se dire, OK, au début, j'étais d'accord sur ce qu'on faisait parce qu'on soignait les handicapés ou certaines maladies. Maintenant, c'est en train d'être complètement accaparé par les puissances du capitalisme consumériste. Donc là, je lève le bras, je sors du rang et je dis, attention, je vais vous expliquer ce qui est en train de se faire aujourd'hui et comment on va l'utiliser contre vous, contre les gens. Donc il y a un rôle de lanceur d'alerte aussi, interne, je veux dire, de traître, mais de traîtrise positive, peut-être à mettre en place dans ce type de laboratoire ou d'action. Donc ça, c'est... pour moi, super important. Mais oui, la science-fiction, pour moi, on est dans l'âge d'or de la SF, j'arrête pas de le dire, à chaque table ronde, je le dis. On est dans l'âge d'or de la science-fiction, c'était pas 1950, c'est aujourd'hui 2013, parce qu'on a un présent complètement structuré et reformaté par la technologie, et que la science-fiction est la mieux placée pour parler de tout ça, voilà, et pour interpréter tout ça, et pour non seulement donner les alertes, mais aussi voir comment trouver des solutions, des alternatives, métaboliser ça dans notre système de pensée, métaboliser ça dans notre système d'émotion, pour qu'on continue à rester humain profondément, et pas post-humain ou transhumain ou inhumain, parce qu'on met en place des systèmes qui sont des systèmes de contrôle robotique, en fait, de la pensée. Hein. Si vous pouvez impulser une stimulation électrique et obliger quelqu'un à faire quelque chose de l'externe, comme ça, vous êtes en train de transformer l'être humain en robot, vous êtes en train de le déshumaniser, c'est la vérité, c'est ça, quoi. C'est tout, on reprogramme les gens, et on l'utilisera quoi en premier? Ben, dans l'armée, pour les soldats, pour transmettre des ordres, etc., on le sait. On le sent, on le voit, et l'auteur de science-fiction, c'est celui qui doit mettre ça en avant. Voilà, sans avoir un discours forcément conceptuel, mais un discours très affectif, perceptif là-dessus, quoi.
Karim, même question.
Juste une remarque par rapport à ça, donc c'est un peu mon devoir aussi en tant que scientifique de clarifier aussi un point aujourd'hui. C'est que c'est vrai que je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple des souris, de la simulation qu'on peut mettre, de simulation électrique ou micro-électrique qu'on peut faire dans les cerveaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez l'homme, on n'est pas à ce niveau-là. Et ce n'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que c'est vrai qu'on utilise la stimulation, par exemple la stimulation magnétique transcrânienne, la TMS, pour des cas pathologiques, pour envoyer des champs magnétiques dans le cerveau pour activer une zone. Alors, ce qui est très important aussi, c'est de savoir c'est que toutes ces stimulations qu'on est capable de faire aujourd'hui, que ce soit électrique ou magnétique, c'est orienté vers une structure du cerveau, souvent par exemple le cortex moteur. Et ça va permettre à remettre en place une neuroplasticité, une réhabiliter la capacité d'une personne à faire des mouvements, par exemple, ou à récupérer suite à un AVC. Mais on n'est pas capable d'injecter des pensées. C'est ça aussi. Il y a une grande différence entre exciter une population de neurones avec un champ électrique qui va faire que la personne, du coup, va améliorer la capacité de bouger sa main, par exemple, par rapport à injecter une pensée malveillante, par exemple. C'est un peu ça aussi, dans l'imaginaire des gens, c'est non seulement décoder les pensées des gens, mais aussi injecter des pensées, leur faire des choses. Donc ça fait penser aussi à l'hypnose, où on va dire, bon, on va injecter une pensée à quelqu'un, on va en contrôler pour faire quelque chose. Aujourd'hui, du moins, et dans les années à venir, je ne vois pas du tout le risque de stimuler pour insérer des pensées. On stimule certaines régions du cerveau, notamment dans un contexte clinique, pour aussi mieux... faciliter la réhabilitation ou la neuroplasticité ou des contextes aussi de neurofeedback où on va essayer par exemple pour des patients ou des enfants atteints de déficit d'attention, on leur permet avec l'autorégulation de l'activité cérébrale d'entraîner leur capacité à faire attention, donc attention visuelle, auditive ou autre, et c'est cette boucle fermée là du coup a vraiment une approche thérapeutique qui peut aider des enfants à améliorer à faire face à ce déficit d'attention. Donc il y a vraiment des applications très précises et la stimulation aujourd'hui, elle est encore à ce niveau-là où on va stimuler une structure pour éventuellement faciliter une récupération, une neuroplasticité.
Et est-ce que la science-fiction apporte quelque chose à vos réflexions en tant que chercheur ou est-ce que c'est un pur divertissement pour vous ?
Non, je pense que si, ça peut apporter. Je pense que le dialogue en général, alors entre SF ou littérature, chercheurs, artistes notamment, je pense que vraiment il y a un échange qui peut se faire, qui peut amener à de nouvelles façons de voir les choses, à un nouvel angle. C'est pour ça aussi important pour nous chercheurs de quitter nos laboratoires et non pas être seulement dans des conférences neuroscientifiques ou des conférences de chercheurs sur le domaine, mais aussi se confronter ou discuter avec le grand public et rencontrer des auteurs de science-fiction notamment. Il faut savoir aussi que la SF a parlé de ces interfaces cerveau-machine bien avant la réalisation de vraies interfaces cerveau-machine fonctionnelles chez l'homme. Donc il y a sûrement à cet échange-là qui s'est fait, il y a sûrement des gens qui ont été inspirés aussi par ces approches-là. Et je pense que c'est un aller-retour entre les deux. Ce que Alain vient de dire aussi, c'est que la discussion d'aujourd'hui lui donne aussi, par exemple, d'autres idées. Donc il y aura d'autres œuvres de SF qui s'inspirent par les recherches actuelles en science-fiction, en science. Enfin, vous voyez, j'ai dit science-fiction, donc un petit lapsus. Donc aujourd'hui, science et science-fiction, ça se confond très bien.
Je crois qu'on peut en rester là pour garder un peu de temps pour la salle, parce qu'on est bavard, et si on repart, on va finir l'heure. Est-ce qu'il y a des questions particulières ici? Est-ce qu'il y a un micro-baladeur?
Oui. Okay. Oui, j'aimerais dire une chose à propos de la sacralité de la boîte crânienne. alors le mot sacré, peut-être, je comprends très bien, je suis très d'accord sur le fait que le débat est nécessaire, qu'il faut le faire, qu'il faut se poser les questions des risques éthiques, etc. Il faut savoir dans quelle direction on va dans les applications, les risques que des gros pouvoirs comme les États ou des multinationales qui ont des buts qui ne sont pas nécessairement le bienfait de l'humanité, etc., puissent utiliser les nouvelles technologies comme ça. Mais quand même, je ne sais pas, il faut se rappeler que pendant la Renaissance, par exemple, il y avait des personnages comme Leonardo da Vinci, etc., qui devaient essentiellement acheter les cadavres sur le marché noir par les gens qui allaient les voler dans les cimetières. Pourquoi ? Pour faire l'anatomie, etc., hein. Mais c'était légal, c'était à risque de la prison ou pire, parce qu'il y avait la sacralité du corps humain, qui était un argument très fort à l'époque, parce que voilà, le corps était nécessaire pour la résurrection, le jour du jugement, etc. Aujourd'hui encore, on utilise la sacralité de la vie, par exemple, pour bloquer toute une série d'avancements, de progrès, qui sont évidemment utiles et qui ne posent pas de questions qui soient pas de style sacré, comme par exemple la fertilisation in vitro, etc. C'est des questions qui vont dans le métaphysique et qui n'ont pas vraiment nécessairement à faire avec les vraies questions qui sont les risques réels d'utilisation mauvaise et les avantages réels que ça porterait la technologie, la chose. Donc j'utiliserai les mots de façon un peu plus... comment dire ?
Moi, le terme, sacraliser la boîte crânienne ou sanctuariser la boîte crânienne, etc. Bon, c'est juste une métaphore. À la rigueur, je m'en fous complètement en matière de termes. Parce que comme le disait très bien Karim Gerbi, je veux dire, d'avoir par exemple, vous êtes sur Google Mail, d'avoir tous vos mails systématiquement lus par des robots. Vous êtes sur Facebook, d'avoir tout votre contenu absolument lu par des robots en permanence. C'est peut-être plus grave en termes de d'atteinte à l'intimité, atteinte à vos histoires d'amour, atteinte à vos histoires d'amitié, etc., que d'aller voir chercher une onde dans le cerveau. Tu vois, aujourd'hui, effectivement, de toute façon, la vie privée a été complètement envahie. L'intrusion est massive et généralisée dans la vie privée des gens, parce qu'on passe la moitié de notre temps éveillé aujourd'hui sur le réseau, et que la plupart des actes qu'on fait, des comportements qu'on a, des sentiments qu'on exprime, passent par le vecteur des réseaux qui est traçable, par définition. Voilà. Donc, effectivement, et c'est pas sanctuarisé. Mais... oui, vous voulez dire peut-être quelque chose.
Donc, il faudrait peut-être sacraliser un. Ah, ok. Il faudrait peut-être sacraliser un peu plus les droits civils, le fait de la privacy, etc., ouais, plutôt que des concepts comme.
Non, mais le problème, on est sur un mot. Vous voyez que même le terme sacraliser, sanctuariser, comme on dit, sanctuariser l'école, etc., sont des termes défensifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est là à se battre pour nos libertés, quoi. Moi, ce qui me touche dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur les nouvelles technologies, c'est que le principe d'une technologie, c'est quoi ? C'est de donner un pouvoir sur le monde, sur les autres, ou parfois sur soi, d'accord ? Donc, c'est à la base de la technique, c'est ça, c'est une volonté de maîtrise, c'est une envie de pouvoir, c'est un empuissantement, d'accord ? Mais sauf que cet empuissantement, il est utilisé aujourd'hui quasiment systématiquement pour accroître le contrôle, d'accord ? Pas seulement le contrôle vertical des gouvernements, des médias, des multinationales sur les gens, mais le contrôle horizontal des gens entre eux, quoi. Et même l'autocontrôle ou l'autocensure qu'on s'exerce mutuellement les uns sur les autres, d'accord ? Et moi, c'est ça qui me fait peur et qui me crise profondément, c'est que le champ de la liberté est en train de se restreindre. Et ça, je crois qu'on ne mesure pas suffisamment. Je veux dire, si on regarde les années 70 et on regarde 2013, si on regarde comment les jeunes vivent aujourd'hui par rapport à la façon dont ils vivaient dans les années 70, je suis désolé, mais il y a une régression et un rétrécissement extraordinaire de la liberté, quoi. Donc moi, j'ai envie de dire aux scientifiques, donnez-nous des technologies qui accroissent réellement notre liberté plutôt que nous donner des technologies qui accroissent notre pouvoir de contrôle, de rétro-contrôle, d'entre-contrôle. Il y en a marre. Voilà, c'est tout, quoi. Je veux dire, on bosse, la science, rien ne la prédestine à aller bosser pour aller chercher les ondes cérébrales ou réfléchir sur le cerveau, ce qu'on peut en extraire, ce qu'on peut lire sur le cerveau. On s'en fout à la rigueur. Donnez-moi une technologie, moi, qui accroître ma liberté, effectivement, et concrètement, et qui fasse de moi un être humain plus humain que ce qu'on est en train de nous monter. Voilà, ça peut être passionnant, l'analyse du cerveau, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Encore une fois, on revient au champ de désir, on revient à l'économie de désir. Quels sont les désirs qui sont derrière? Eh bien, c'est encore un désir d'outillage, c'est encore un désir d'outillage de nos paresses, un désir d'outillage du contrôle. Voilà, c'est ça la vérité. Donc, on est en société de contrôle, on est en société de contrainte, et on ne fait qu'accroître ça, quoi. Donc, moi, j'ai juste envie de respirer, d'ouvrir la tête et de dire, bon, allez, trouvez-moi quelque chose qui, voilà, qui me dilate plutôt que de me contraindre. Voilà.
Bonjour.
Oui.
Ah, je suis là, au fond. Voilà. Moi, j'avais une question sur. Là, on a beaucoup parlé de la capacité de transmettre des informations depuis un cerveau vers une machine. Et l'inverse, c'est-à-dire transmettre des informations depuis une machine vers un cerveau, parce que la vue par la vidéo, on sait bien le transmettre, le son avec, voilà, avec des casques, avec des enceintes, mais il y a des sens notamment qui sont plus difficiles à transmettre, le toucher, le goût, l'odorat. Je ne sais pas s'il y a des travaux qui sont là-dessus. Et si c'est le cas. Comment ça avance et surtout quels sont les enjeux? Il y a moins de problèmes de privacy, justement. Par contre, je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent parce qu'effectivement, si on peut transmettre des sens, on peut effectivement transmettre aussi des contraintes. Et j'imagine que ça, c'est pas non plus quelque chose de neutre.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est en mesure de faire une partie de ce que vous dites. On peut le faire à certains niveaux, par exemple dans le visuel. Alors, il y a des implants aujourd'hui qui permettent de restituer certaines parties. Donc, c'est aussi quelque part une interface cerveau-machine avec les implants qui permettent de restaurer un minimum de vue à des personnes non-voyantes. Et donc là aussi, on va envoyer de la lumière qui va aller sur une petite matrice, mais qui peut être même 5 par 5, qui va donner un minimum d'informations sur le champ visuel à des personnes qui ont perdu toute la vue. Il y a aussi des stimulations, j'en parlais tout à l'heure un petit peu, dans le cortex sensorimoteur ou sensitif de singes ou aussi de rats pour leur donner un retour sensitif sur un lieu ou sur ce que ressent le bras robotisé qui se déplace. On s'est rendu compte que quand il y a aussi un retour sensitif, parce que en général, nous, en être humain, on a la proprioception qui fonctionne. Donc, quand vous bougez, ce n'est pas juste un acte moteur. Il y a aussi un retour que vous avez de l'inertie de votre bras ou de ce que touche votre main. Donc, il y a cette boucle qui est mise en place. Donc, pour rendre ça plus réel, dans les interfaces cerveau-machine, aujourd'hui, on explore aussi le fait de rendre aussi une information sensorielle à la personne. Et là, ça se fait, encore une fois, par la stimulation de régions sensitives. Alors, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, c'est aussi, on pourrait comparer ça aussi à des stimulations qui ne sont pas directement émises par le cerveau. Quand vous êtes stimulé par des odeurs, vous rentrez dans un magasin, on vous donne. Vous avez votre système olfactif qui est stimulé par ça. Voilà, c'est des choses qui sont du même ordre. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas encore bien stimuler le cortex entorhinal périrhinal chez l'homme pour générer ces sensations d'odeurs différentes. Mais on peut imaginer que ça pourrait quelque chose se faire dans le futur. Je ne sais pas si c'est vraiment souhaitable. Encore une fois, je pense que vu que le cerveau fascine tellement, on se focalise sur ces ondes cérébrales et ce qu'on peut en détecter comme information ou y injecter. Mais on oublie souvent que c'est beaucoup plus facile, comme disait aussi Alain à l'instant, d'extraire une information à partir de votre comportement, à partir de vos agissements sur Internet, de vos amis, de ce que vous faites. Et là, c'est une information qui est servie sur un plateau. Le cerveau, il est peut-être, vu que cette capacité de décodage, elle restera dans un certain sens assez limitée. On ne va pas pouvoir décoder des pensées. Je parlais tout au début de cette notion de dictionnaire. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne comment quelque chose est encodé pour pouvoir le décoder. Peut-être que notre cerveau, lui, est en train de nous protéger et que c'est là, en fait, où il se débrouille beaucoup mieux que nous, ce qu'on fait avec nos comportements, où on offre tout sur un plateau à... Après, il y a une question encore beaucoup plus fondamentale, peut-être même philosophique. On peut se demander la question de est-ce que c'est un combat? Parce que je pense qu'on a tous ce réflexe de vouloir se protéger et de protéger ses libertés et voir ce champ de liberté qui est en train de rétrécir. on le voit comme ça. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on n'est pas en train de juste de changer? Est-ce qu'on crée d'autres espaces de liberté, mais on ne se rend pas compte parce qu'en général, on s'inquiète sur, de nos acquis plutôt de ce qu'on est en train d'acquérir par la technologie? Il y a des choses avantageuses qu'on a apprises par la technologie. Donc je pense que l'image, elle n'est pas aussi noire. Ce n'est pas quelque chose de négatif de se dire qu'aujourd'hui, il y a des informations sur nous qui peut-être circulent. Ce qui est important, je pense, c'est de mieux comprendre les libertés nouvelles qu'on peut acquérir avec ces technologies-là et utiliser même ces mêmes libertés-là pour mieux protéger les libertés qu'on a l'impression qu'on est en train de perdre. C'est-à-dire que les interfaces cerveau-machines peuvent peut-être aussi servir à nous protéger nous-mêmes dans un futur à moyen terme de cette invasion, de cette intrusivité via les ICDM, donc via les interfaces cerveau-machines.
Il y avait une question devant.
J'avoue que je suis un peu d'accord avec Alain dans le sens où ce que vous me dites me fait peur. Effectivement, j'ai peur qu'on vienne m'implanter directement. Donc. Ensuite, vous nous parliez de contrôle. Effectivement,
je ne vais pas le faire. Hein. Après, je prends le train, je ne vais pas vous toucher.
C'est, oh, ça pourrait être marrant, on ne sait jamais. Mais non, je veux quand même faire la soirée de Remember Me ce soir, soyez sympa. Mais quand vous parlez d'éthique, on parle là donc de découpage, de morcellement de cerveau, de savoir, et donc quelque part d'une stimulation de pensée qui, à long terme, même si on ne sait pas le faire maintenant, pourrait arriver. On pourrait arriver quelque part, dans l'idée, à contrôler quelque part ce que vous pensez. Donc comment est-ce que vous pouvez faire confiance en soi à des systèmes de contrôle qui seraient des systèmes de contrôle humains, des commissions, de bioéthique, etc., quand vous travaillez justement, enfin, entre guillemets, à trouver des applications au fait de contrôler ce contrôle. Donc, est-ce qu'il y a pas que, est-ce que le serpent se prend pas la queue à un moment donné?
Ouais, je comprends ce que vous dites, mais je pense que la mauvaise nouvelle, c'est qu'on contrôle déjà votre cerveau. Donc vous êtes, vous rendez peut-être pas compte, mais c'est vrai. C'est vrai de ce que vous vivez, la publicité, la télé, les livres que vous lisez, les auteurs que vous préférez. Il y a quelque chose qui, toujours qui reste en vous. Ça modifie votre façon de penser. Et il y a une partie où vous pensez choisir. Alors, c'est que ça, enfin, là, on pourrait avoir un jour un autre débat sur la question du choix, le libre choix et la décision. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, nous, on a des travaux aussi là-dessus dans notre laboratoire pour comprendre comment on arrive à une décision. Mais cette impression de choix, il y a une partie, il y a plein de choix implicites, il y a plein de choses qu'on fait parce qu'on pense avoir choisi nous-mêmes. C'est le fonctionnement même de la publicité. Même si vous essayez de détourner le regard de la publicité, vous êtes quand même bombardé. Donc, je pense que je comprends le fait qu'on veut éviter d'avoir cette peur de fait qu'on contrôle notre cerveau. Mais je pense que le problème n'est pas dans les neurosciences, il n'est pas dans les interfaces cerveau-machine, il est plus large, il est plus dans la société et notre façon de fonctionner et les intérêts, le lien avec le marketing, le lien avec peut-être même des pensées d'ordre politique ou autre qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment un problème beaucoup plus large. Je ne vois pas vraiment uniquement au niveau du cerveau. Et encore une fois, injecter des pensées, c'est quelque chose qu'en tant que neuroscientifique, je ne vois pas ça arriver.
Alain, un tout dernier mot, parce que la musique est en train de monter, ça veut dire
oui,
qu'on a atteint notre...
Oui, bien sûr que ce n'est pas le seul système de contrôle, mais ça rajoute encore une couche. Et cette couche, elle est quand même... Elle touche quand même à des choses qu'on a du mal à contrôler, à des choses qu'on a du mal à parer, quoi. Je reviens juste sur l'idée d'empreinte cérébrale. Vous mettez quelqu'un dans une cellule et vous prélevez son fonctionnement au cerveau, du cerveau au repos, et vous avez l'empreinte cérébrale de quelqu'un. Vous vous rendez compte en termes d'identification ce que ça produit, quoi. Avant, on prenait votre face et puis on prélevait l'identité à partir de votre face. Puis après, on a prélevé l'ADN. Et maintenant, on prélevait l'empreinte cérébrale. D'accord ? Donc vous allez dire, ouais, mais de toute façon, il y avait déjà l'ADN, puis de toute façon, on avait déjà votre visage, personne ne fait de la chirurgie esthétique, ou très peu. Oui, peut-être, mais malgré tout, c'est encore une couche supplémentaire du contrôle, de l'identification et de la manipulation possible des gens. Voilà. Et c'est dans un même champ, vous avez raison de le dire, c'est un même champ, voilà, de contrôle de la vie privée, de contrôle des gens, et encore une fois, de contrôle et vertical et horizontal. Et on a tous notre responsabilité dans le contrôle horizontal, parce que nous sommes en demande de contrôle, le contrôle est une demande sociale, nous utilisons les applications qui contrôlent nos proches, notre femme, nos enfants, notre voisin, notre collègue de bureau, etc. On les utilise tous. Donc, il faut se dépolluer aussi soi-même, hein, pas simplement dire que c'est les pouvoirs, etc., qui verticalement nous contrôlent. Nous aussi, on est acteurs. Et le contrôle, malheureusement, c'est démocratisé. Et je pense pas pour le bien des libertés individuelles et collectives. Quoi. Voilà.
Karim, un tout dernier mot rapide. Alors, plus de tout dernier mot. Donc, reste à remercier nos intervenants. Vous remercier d'être venus aussi nombreux. Bravo.